Hello, I'm Stefano Rossello from Rustblade Records. Thank you very much, Rivera Podcast, for this great show. And thank you very much for the great feedback that we receive after your show. I hope we can do in future new podcasts.
Rivera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rivera Records Collection où on va s'intéresser cette semaine à un auteur, compositeur, chanteur, producteur qui s'appelle Rome avant tout. Bonjour très cher.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Très bien, voilà. Le même cinéma que toutes les semaines. Mais...
Je ne veux pas dire que ça va mal.
Non, tout va bien. Par ces temps difficiles, il vaut mieux dire que tout va bien. Alors, qui est Rob ? Bah justement, on va...
C'est Robert.
Voilà, même pas.
Même pas.
Non, Robin, voilà. Il naît en 1978 à Caen. Robin Couder, alias Rob, est un musicien, auteur, chanteur, compositeur et producteur. Il grandit en banlieue parisienne où il commence l'apprentissage de la trompette classique à l'âge de 8 ans. Interrompu pour des raisons de santé, il poursuit l'étude de la musique par le piano et le synthétiseur et il crée ses premières compositions électroniques à l'âge de 10 ans. Rob intègre un groupe de heavy metal à 14 ans, puis un groupe de P-Funk à 16 ans, avec lesquels il découvre l'exercice de la scène. Parallèlement à ses expériences musicales, il entre aux Beaux-Arts de Paris en 1996, où il travaille dans l'atelier du peintre, Vladimir Velikovic. C'est cependant le label Source qui repère Rob, présenté par ses amis de Phoenix. En 1998, il participe ainsi à la compilation Source Rocks, dont sera l'extrait son premier EP, Musique pour un enfant joué. En 2001, Source sort son premier album, Don't Kill, suivi de Satyred Love. En 2002, il rencontre durant la production de ces derniers l'ingénieur du son Jack LaHanna, avec qui il poursuit depuis l'ensemble de ses travaux. Rob débute alors une série de collaborations avec Sébastien Tellier ou Phoenix, qui l'accompagnera sur scène au clavier et aux percussions depuis lors. Son expérience cinématographique naît en 2005 avec le court-métrage Pinko Boys Boots, de Maria Larrea, qu'il épouse la même année et se poursuit activement depuis 2010. En effet, Rob crée ensuite les musiques originales pour Belle Épine de Rebecca Zlotowski en 2010, Jimmy Rivière de Teddy Lucie Modeste en 2011, Radio Star de Romain Lévy en 2012, Populaire de Régis Roissard en 2012, à ne pas confondre avec le titre de Nathalie Cardone, nommé au César de la meilleure musique originale, Maniac, On reviendra sur Maniac d'ailleurs prochainement, de Franck Calfoun en 2012, Je suis supporter du Standard, non, c'est pas une blague, de Riton Liebman en 2013, Rock the Kabash de Laila Marakchi en 2013 également, Grand Central de Rebecca Zlotowski en 2013 aussi, Tristesse Club, Every Secret Thing en 2014, Horns d'Alexandre Aja en 2014, etc. Depuis 2012, le studio parisien Hippocampus, créé avec Jack LaHanna, abrite l'ensemble de ses productions. Et alors, nous, on va partir sur deux de ses œuvres aujourd'hui, avec Come Fire Creepers, pour commencer. Puis ensuite, ce sera She-Wolf, musique d'un documentaire, magnifique d'ailleurs. Hein, voilà. Ça va nous changer un petit peu des musiques d'horreur. Quoique le premier, c'est bien de l'horreur, un petit peu, hein, quand même.
Ah oui.
Voilà, donc on va commencer avec ce premier extrait de Rob, de Come Fire Creepers, et puis on reviendra sur justement, qui est une série de, sur Come Fire Creepers, qui est une série d'horreur en réalité virtuelle, qui était créée par Oculus et le réalisateur de La Colline à des yeux, tout un programme. Allez, c'est parti, premier extrait, on revient juste après.
Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique. We'll be right back. Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.
Voilà, on est de retour après ce premier extrait de Campfire Creepers, qu'on croyait un jeu, mais c'est pas vraiment un jeu, c'est un film, enfin un court-métrage.
À regarder avec des lunettes.
Les lunettes VR. Le réalisateur du film de La Colline à des yeux, Alexandre Aja, terrible film d'ailleurs, s'associe avec Oculus et Future Lighthouse pour créer Campfire Creepers, une série d'horreur à 360 degrés inspirée par les contes de la crypte. La série est toujours en cours de tournage, il y a plusieurs épisodes, dont ça comme Fire Creepers là, et sera disponible en exclusivité donc sur Oculus Rift. Dans le domaine du cinéma d'horreur, le réalisateur Alexandre Aja est reconnu par les amateurs du genre comme un vétéran de renom. Le cinéaste français, et oui, Cocorico pour les Français, français qui fait carrière aux États-Unis, est notamment connu pour son travail sur les films donc La Colline à des yeux, le remake en 2006, Piranha 3D en 2010 ou encore Horns en 2013. Son style unique et sa maîtrise des codes du genre lui ont permis de se distinguer dans un milieu pourtant saturé depuis de longues années. À l'international, Alexandre Aja compte sans conteste parmi les meilleurs réalisateurs d'horreur de la génération 2000-2010. Alors que dire justement de ce Campfire Creepers ? À présent, le cinéaste s'associe avec Oculus et le studio de production de films en réalité virtuelle Future Lighthouse pour créer une série d'horreur à 360 degrés. Ce titre fait référence aux histoires terrifiantes que l'on se raconte la nuit autour d'un feu de camp. De fait, la série sera probablement divisée en courts-métrages indépendants relatant chacun une histoire différente, un peu comme Chair de poule ou Fais-moi peur dans les années 90. Selon ses créateurs, la série est également inspirée par Creepshow et par les contes de la crypte, de quoi faire ressurgir vos peurs d'enfant profondément enfouies dans votre subconscient. Alors moi, j'ai regardé la vidéo non VR, mais sur YouTube. Je n'imagine même pas avec le casque, parce que nous, on n'a pas le casque Oculus, on a un casque 3D tout à fait classique pour smartphone.
Oui.
Mais je dois dire que rien que la séquence où les fourmis arrivent sur la tête de la femme qui est enterrée jusqu'au cou, j'imagine que ça doit être vachement impressionnant en 3D parce que on s'y croirait apparemment d'après les critiques que j'ai vues.
Je pense, oui.
Voilà, d'ailleurs, pour la petite histoire, cet épisode justement commence avec une grosse frayeur justement pour les personnes qui jouent, c'est que tu as des flammes qui arrivent en fait devant les yeux et tu te demandes en fait ce qui arrive parce que tu te demandes s'il n'y a pas un bug, mais non, en fait tu écoutes les enfants qui racontent les histoires et toi tu es dans le brasier.
voilà
donc tu as l'impression de brûler vif dès que le jeu commence. C'est absolument magnifique, de quoi vous donner de bonnes frayeurs en ces temps un peu plus frais.
Alors, ça réchauffe le cœur.
Voilà. Donc la série prend place dans un camping portant le nom de Camp Coyote. Un groupe de campeurs se raconte des histoires effrayantes à tour de rôle. Et chaque histoire est l'occasion d'immerger le spectateur dans une expérience terrifiante en réalité virtuelle. Toujours d'après les dires de ses créateurs, et on le confirme, Campfire Creepers est l'un des premiers contenus VR conçus pour attirer le grand public dans justement cet univers de la réalité virtuelle. Alors il faut noter que notre cher Freddy, Robert Englund, connu pour son rôle justement dans les Freddy et dans le cultissime slasher Nightmare on Elm Street, fera de courtes apparitions sous forme de caméo dans l'un des épisodes, justement celui qu'on a vu, un argument supplémentaire pour susciter l'intérêt des fans de films d'horreur. Alors à travers ce projet, Aja et Future Lighthouse expliquent qu'ils essayent d'explorer les possibilités offertes par justement les caméras à 360 degrés en essayant de nouveaux mouvements de caméra, de nouvelles technologies de montage et des prises d'images novatrices. Précision que le producteur, réalisateur Casey Cooper Johnson et le réalisateur scénariste Martin Anderson ont co-créé la série avec Alexandre Aja et ont écrit le scénario de la première saison. Voilà, alors que dire d'autre ? On vous laisse redécouvrir un autre morceau, un autre titre de ce vinyle. Voilà, c'est un EP, il faut bien le signaler.
10 pouces.
Voilà, 10 pouces rouge, en 45 tours. Voilà, et qui justement est d'une très belle couleur rouge et d'une qualité de sonore excellente, il faut le dire.
Oui, bah oui.
Voilà. Donc on est parti avec un deuxième extrait, puis on vous revient ensuite pour la suite des aventures des musiques de Rob avec She-Wolf. À tout de suite.
Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.
Alors, on change complètement de registre.
Ah bah oui.
On passe de la musique synth-pop électronique à quelque chose de beaucoup plus doux et classique, et ça va faire du bien aux oreilles, enfin du tout le moins on l'espère.
Et parce que je suis Wolf, il n'y a pas que lui qui... Enfin, c'est un titre qui est très connu aussi de Shakira et puis...
Oui, voilà, David Guetta, c'est absolument pas ça.
Il n'y a pas trois notes.
Non, il n'y a pas trois notes, justement. Voilà. Et c'est, on peut dire que cette bande-son, elle est magnifique. Autant le packaging du vinyle est absolument, on peut le dire, pas terrible. Voilà, c'est du fait maison, voilà.
Il y a pire.
Il y a pire. Mais disons qu'au premier abord, ça rebute, mais quand on connaît la musique, on est bien content d'avoir ce vinyle dans les mains.
Et sur la platine plutôt.
Oui, dans les mains déjà d'abord, parce que justement il était très limité, on a eu beaucoup de mal à le trouver, hein, parce qu'il est sorti il y a quelques années maintenant, mais on a eu beaucoup de mal à le trouver, et grâce à un site allemand qu'on a pu l'avoir, donc alléluia, comme on dit. Alors justement, ce n'est pas un film, c'est un docu-fiction, troisième épisode. Troisième volet du cycle Le plus beau pays du monde, consacré aux Alpes, et diffusé sur France 2, et qui a pour fil rouge l'entraide dans les milieux extrêmes. Alors, que dire de plus de ce documentaire? Alors, c'est entre 20 et 30 scientifiques qui ont contribué à son élaboration. Les principaux sont Wilfried Thuillier, directeur de la recherche au laboratoire d'écologie alpine de Grenoble, médaille d'argent au CNRS en 2018, spécialiste en écologie et modélisation spatiale et temporelle de la biodiversité et des écosystèmes, rien que ça, et Franck Courchamp, directeur de recherche du CNRS, et exerçant au laboratoire écologie systématique et évolution de l'université de Paris-Sud à Orsay. Ils ont permis d'élaborer et comprendre le milieu alpin si particulier. Le réalisateur d'ailleurs a choisi d'être éclairé pour chaque animal ou plante évoqué par un spécialiste de la question, et a toujours privilégié cette approche très scientifique pour chacun de ses films avant de polir le système narratif. C'est un travail de recherche et d'information qui lui a pris presque un an avant de tourner les premières images justement de ce troisième volet. Alors que dire de cette musique déjà? Eh bien c'est planant, c'est magnifique, on écoute sans lassitude en fait, hein, voilà, quand on a envie d'un bon moment de détente dans la journée, on se met ce vinyle, nous en tout cas, et c'est pas lassant, ça revient pas toujours, c'est pas comme dans certaines bandes son, c'est toujours le même thème qui revient lancinant, mais oui, non, et que dire, en fait le vinyle est super bien gravé, on peut le dire, bien pressé, très très bon son.
En tout cas, Nadou l'avait beaucoup de fois pour...
Oui, mais ça...
Après, le son est excellent.
Après, le son est excellent. Maintenant, ça arrive souvent avec les vinyles actuels, on a remarqué, ouais. Même les plus récents.
Ils sont sales.
On a un peu l'impression que c'est, qu'il n'y a plus autant d'attention au niveau de la production des vinyles qu'avant. À part Waxwork Records, qui est quand même, dans les musiques de films, un cas à part, où chaque fois les produits sont impeccables, mais quand on prend Mondo ou d'autres, on a toujours l'impression qu'il y a cette espèce de cire sur le vinyle qui laisse des traces absolument, des déchets sur l'aiguille qui sont abominables, et il faut chaque fois le laver deux ou trois fois avant d'obtenir un son nickel, qu'on attend d'un vinyle en fait. Et pas de saleté, voilà. Alors on va écouter un premier extrait, si tu veux bien, de cette bande-son de She-Wolf par Rob, et on se retrouve juste après.
Thank you.
Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.
On est de retour après ce premier extrait, alors que dire en plus de le documentaire de Frédéric Fouja. Alors au niveau des titres, la face A contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titres, et ainsi que la face B, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà des titres quand même assez courts, il faut le dire, ce qui permet de ne pas être lassé.
Oui, c'est bien.
Voilà. Alors, ça a été distribué par Boréal. Et, voilà, et au studio, donc en 2019, par les studios Hippocampus, comme
parce
toujours.
Parce qu'ils le valent bien.
Voilà. Published by Hippocampus aux éditions des Abysses Boréal, documentaire produit par Boréal Productions également et distribué chez Emile. Alors, le vinyle a été fabriqué et distribué en France par Wolfpack United. Voilà pour les petits détails. Voilà, une pochette. Comme vous le verrez sur le visuel de l'émission, une pochette bleue avec des yeux de loup en jaune, avec des inscriptions chez Wolf, évidemment, encore heureux. Et tous les explicatifs à l'arrière avec une photo d'aigle. Voilà. On est parti pour la suite des petites explications sur ce documentaire, juste le temps que je retrouve mes notes, si vous voulez bien. Si vous ne voulez pas, c'est la même chose.
Voilà.
Alors voilà, le réalisateur avait déjà traité des Pyrénées dans les deux précédents films du cycle, Le plus beau pays du monde, qui s'intéressait chacun à 5 régions françaises différentes. En choisissant les Alpes, il a fallu que le réalisateur trouve un fil conducteur pour unifier les milieux rencontrés. Il a choisi le Loup, qui lui a semblé idéal, car il a reconquis toute l'Europe à partir de ses montagnes. C'est une histoire magnifique qui ressemble un peu aux humains, car on a connu un petit peu le même goulot d'étranglement il y a environ 100 000 ans, alors qu'il restait très peu d'Homo sapiens sur Terre. Les Alpes ont permis au loup, dont il ne restait que quelques individus, de survivre et de multiplier à nouveau. Le film est une fiction élaborée autour d'une louve isolée et de sa meute, est partie pour en fonder une autre. Pardon. Pour le tournage, le réalisateur a fait appel à des loups habitués aux humains. On se demande aussi, est-ce que la fiction et la réalité font bon ménage? Alors, toutes les histoires tissées dans le film s'appuient sur des données scientifiques. Le but est de livrer une information sur un mode de divertissement. Toutes les situations qu'il montre ont été observées dans la nature. Ils n'ont rien inventé. Mais il est impossible de filmer des loups sauvages dans ces situations, bien évidemment. Voilà pourquoi ils ont fait intervenir des animaux effectivement habitués aux humains. Mais chaque plan est validé. Alors, au niveau des moyens techniques, outre les drones, ils ont utilisé des caméras 8K pour certaines scènes. 8K désigne donc une précision d'image environ 8000 pixels, la plus haute définition connue aujourd'hui. Alors cela permet d'obtenir une qualité exceptionnelle, même en grossissant l'image. Ils ont ainsi obtenu par exemple des gros plans de gypaètes barbus, voilà, alors qu'ils ont filmé ces rapaces à très très longue distance. Et ils ont gagné ainsi en proximité en grossissant l'image près de 40 fois. Tu vois, c'est
ah oui.
D'ailleurs, la Wicca, on commence à avoir des caméras domestiques, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, qui commence. Alors, ça me fait rire parce qu'on est à peine il y a pas grand monde qui est quand même équipé en 4K. Que là, on parle déjà du Wicca et des premiers téléviseurs Wicca qui viennent de sortir.
Déjà que la Suisse est à peine à l'HD.
Oui, mais voilà quoi.
Chacun son rythme.
Voilà, ici en Suisse, on demande toujours quand est-ce que le DVD sort encore. Hein, faut pas oublier ça. Alors, d'entrée, le ton est donné et nous sommes face au plus beau pays du monde, en l'occurrence les Alpes, le sanctuaire de la vie sauvage. Comme les précédents, ce troisième opus d'un cycle commencé en 2013 par le réalisateur Frédéric Fouja, déjà auteur d'Anuman en 1998, d'Homo Sapiens et du Sacre de l'Homme avec Jacques Malater en 2005, et qui présentait d'autres régions de France, qui a pour ambition de faire partager une même émotion face aux stratégies de survie déployées par la faune. 30 000 espèces recensées et la flore, 13 000 espèces de ce milieu extrême. Je te propose qu'on parte avec un deuxième extrait, ce vinyle, si tu veux bien.
Oui.
Oui. Et puis on revient tout de suite après. Thank you.
Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.
De retour, on arrive presque déjà à la fin de cet épisode. Alors, le scénario, que dire, il confine au compte, invite à suivre à travers l'immense massif européen une louve qui, faisant fi des frontières, part reformer une meute. L'occasion, bien sûr, d'évoquer les rapports conflictuels qu'entretiennent les humains avec les canidés et les solutions possibles pour une cohabitation bien comprise. Il faut se laisser bercer par la voix, autant juste, de Gérard Lanvin. Il y a eu d'ailleurs un petit couac technique lors de la première diffusion sur France 2, les 15 premières minutes, il n'y avait pas la voix, en fait, de Gérard Lanvin. Et c'était la débâcle pour toute l'équipe, parce que, en fait, ces 15 premières minutes sont super importantes pour bien comprendre le documentaire. Et il y a eu un bug, voilà, la première diffusion, et il n'y avait pas la voix les 15 premières minutes. C'était relancé après 15 minutes. Heureusement, il y a eu d'autres diffusions. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est disponible en DVD ou Blu-ray, je ne l'ai trouvé nulle part, mais je sais que sur certaines plateformes de streaming, on sait le voir, et en replay sur France 2 également. Donc,
c'était moi demandé à la chaîne.
Ouais, voilà. Alors, il faut donc se laisser percer par la voie, comme on l'a dit, à l'escalade initiatique du barrage de Sigino en Italie, une muraille verticale de 50 mètres par les bouquetins. L'heure petit est à ce titre époustouflante. C'est un vrai spectacle à regarder en famille, hein. Même les deux premiers volets y ont rassemblé chacun plus de 5 millions de spectateurs. Voilà, alors pour revenir un peu sur la musique, comme vous avez pu l'entendre, c'est relaxant, c'est berçant, c'est beau. Les mélodies sont très très belles. On a un peu du mal à croire que ça vient de Rob, en fait, hein, parce qu'on a plus l'habitude des sons synth-pop, de plus de choses au niveau des bandes-sons qui sont plus dans cette mouvance. Mais là, bien qu'il y ait quelques nappes de synth-pop, là on est quand même plus dans la création, je dirais, symphonique. Voilà, donc on va se quitter avec un dernier extrait de ce vinyle. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais cette fois-ci pour une bande tout à fait autre chose, et pour une bande originale, mais de jeux vidéo cette fois-ci.
Ah oui.
Voilà, allez, à la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Thank you.
Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.